on aura un peu plus de temps. Bon, c'est une question difficile. Il faut la préparer. Et il y a un chantier. Une question, il faut avoir un chantier là-dessus. Quand je dis avoir un chantier.
Cherche au point de vue théologique pour voir la naissance du sacrement. Parce que de fait, c'est proprement à la scène où nous devons voir la naissance du sacrement. C'est le sacrement par excellence. L'Église a reconnu que l'Eucharistie est le sacrement par excellence. Or, dans la nouvelle alliance, on commence par ce qui est le plus parfait, tandis que dans l'ancienne alliance, on commence par l'imparfait. J'ai jamais oublié ça. On va d'Abraham à Marie, tandis que dans la nouvelle alliance, on va de Marie au dernier. Je ne sais pas qui sera le dernier. Mais on va de Marie au dernier, le dernier qui recevra le Christ dans son retour. Et Marie est plus parfaite que le dernier, tandis qu'Abraham est moins parfait que Marie. Donc l'ancienne alliance va de l'imparfait au parfait, et la nouvelle alliance va du parfait vers, je ne dis pas l'imparfait, mais vers ce qui termine la grande attente. Alors, ce qui caractérise l'économie divine dans l'Église, c'est toujours partir de ce qui est parfait. À la différence de l'Ancien Testament, où il y a un ordre génétique. Je crois que c'est très important de comprendre ça. C'est toute la différence entre le point de vue, vous voyez, de la théologie biblique et la théologie de l'Église. La théologie biblique va de l'imparfait vers le parfait, tandis que la théologie de l'Église part du parfait vers ce qui dure. Je ne dis pas l'imparfait, parce que ça n'aurait pas de sens. Mais vers le fait de durer. L'Église, c'est continuer le mystère de Marie, autant qu'elle le peut. Et je crois que le terme de l'Église aura une perfection très particulière de rejoindre le mystère de Marie. Plus que le début de l'Église. Le début de l'Église est plus loin de Marie que le terme. Ce qui me semble, on ne peut pas l'affirmer d'une façon absolue, mais je crois que c'est ça, le propre de la conduite de l'Esprit Saint. D'Abraham à Marie, de Marie à celui, celle, qui attend le retour du Christ. Et nous sommes peut-être très proches de ce retour du Christ. Oui, la petite Marthe représentait quand même quelque chose d'assez extraordinaire quand elle osait nous dire, étant donné son humilité, que personne n'avait été aussi uni à la passion du Christ depuis Marie qu'elle. C'est terriblement audacieux de dire ça. Alors, ou c'est du démon, ou c'est de Dieu. Si c'est de Dieu, c'est un signe de la fin. Si c'est du démon, toute la vie de Marthe était fausse. Or, tout semble indiquer que la vie de Marthe était de Dieu. Donc, quand elle dit ça, c'est un signe très net du terme. Si on croit, on n'a pas une foi au sens absolu du signe, mais le signe indique quelque chose. Depuis Marie, personne n'a été aussi uni à la passion du Christ que Marthe. Alors ça, je crois, vous voyez, que si on donne un petit peu une courbe, hein, sans faire de la géométrie, n'est-ce pas, on a une montée. Abraham, Marie. Après Marie, il y a le haut plateau. L'Église, c'est le haut plateau. Mais nécessairement, celle qui est au terme doit rejoindre Marie. Ça me semble impossible autrement. Et donc, quelqu'un qui nous dit, il n'y a pas beaucoup. Je crois que dans l'histoire de l'Église, Marthe a été la seule à dire ça. Il y a eu dans l'Ancien Testament quelqu'un qui a dit quelque chose de semblable, c'est Salomon. C'est assez curieux, tu vois ça. Et Marthe ne pensait pas à Salomon quand elle dit ça. Il y a que Salomon qui a dit que personne n'aurait la sagesse aussi grande que Salomon annonçait le Christ. Alors c'était normal, hein, il y avait Salomon. Salomon qui était proche de Marie. Proche de la sagesse de Marie. Que personne n'aurait cette sagesse aussi grande que Salomon. Et Marthe dit ça. Alors on est Marthe ici. Puis Marthe et Marie, ça c'est tout à fait des choses bibliques. Non ? Alors c'est quand même assez étonnant ça. Alors, nous ne savons pas du tout. Ça peut durer. Après Marthe, hein, ça peut durer pendant un certain temps. Mais on a l'impression qu'on a atteint comme un sommet. On a atteint quelque chose qui va très loin. Qui représente comme quelque chose d'ultime. Oui. Et ce qui est très beau, c'est que la communauté Saint-Jean est née de Marthe. Alors c'est quand même très beau. Vous faites ce que les foyers ne peuvent pas faire. Donc Marthe reconnaissait qu'il y avait quelque chose que les foyers ne pouvaient pas faire et qu'elle était heureuse de voir que c'était la communauté Saint-Jean qui le faisait. Alors, c'est quand même quelque chose d'important pour nous de comprendre ça. Parce que je crois que si on ne comprend pas ça, on n'est pas fidèle à l'origine. On n'est pas fidèle à l'inspiration profonde. Et il y a quand même là quelque chose d'assez impressionnant. Alors, voyez bien que la nouvelle alliance commence par la plénitude de grâce. Alors, la nouvelle alliance doit donc tout comprendre, le mystère de l'Église doit toujours se comprendre par la plénitude de grâce. Or, le point de vue de l'Eucharistie, c'est le sacrement par excellence. C'est donc par l'Eucharistie qu'on doit comprendre tous les autres sacrements. Si vous voulez comprendre les sacrements par le baptême, vous êtes encore de l'ancienne alliance. Et vous prenez un ordre qui n'est pas celui de l'Esprit Saint. Tandis que la nouvelle alliance commence par la plénitude de grâce, donc par l'Eucharistie. C'est donc par l'Eucharistie que je dois saisir la grande théologie des sacrements. Alors, la naissance de l'Eucharistie doit m'aider à comprendre ce qu'est le sacrement. Or, la naissance de l'Eucharistie, c'est le geste du Christ lié au testament du Christ. Et c'est à partir de là que je dois comprendre tous les sacrements. Et je dois comprendre surtout le passage des gestes du Christ à l'institution des sacrements. Et c'est ce que j'ai essayé de vous exprimer la dernière fois. Je le reprends ici pour vous donner encore plus de netteté, parce qu'il s'agit d'essayer de comprendre cette chose-là. L'Eucharistie a été fondée expressément par le Christ. Il était nécessaire. Si l'Eucharistie n'avait pas été fondée, instituée expressément par le Christ, les sacrements ne seraient pas institués par le Christ. Mais il suffit que l'Eucharistie soit instituée par le Christ pour dire que tous les sacrements sont institués par le Christ. C'est ça que théologiquement il faut comprendre, vous voyez, et non pas apologétiquement. Je crois qu'on a fait un tout petit peu. C'était normal, comme toujours dans les temps de lutte, on prend des procédés trop immédiats. On n'a pas assez de recul. Quand on est dans la lutte, on est comme ça, on prend n'importe quelle flèche pour faire de tout bois une flèche, n'est-ce pas ? Et là, ça ne va pas. Et alors, on prend l'apologétique à la place de la théologie. Alors là, on doit prendre au contraire, nous avons un peu plus de recul, et Vatican II nous donne ce recul. Je crois que Vatican II nous donne ce recul, à la différence de Concile de Trente. Le Concile de Trente est en face du protestantisme, Vatican II n'est plus en face du protestantisme. Alors nous pouvons prendre un peu de recul. Et en face de ce recul, grâce à ce recul, nous pouvons essayer de comprendre que la théologie des sacrements doit se prendre à partir de l'Eucharistie. Le geste de Jésus instituant l'Eucharistie. quelle est l'intention du Christ instituant l'Eucharistie. Pour moi, c'est cela la chose essentielle. Et le pape Paul VI, le pape Jean-Paul II, nous l'indique dans sa lettre sur l'Eucharistie, sur le sacerdoce, il y a 2 ans, qu'il a envoyé à tous les prêtres, et tous les diacres, et tous les évêques. Je crois que c'est une lettre très importante. Il faut la relire de temps en temps. Parce qu'elle montre bien l'importance de l'Eucharistie, pour nous montrer comment le mystère donc de l'Eucharistie et le mystère du sacerdoce sont contemporains. Qu'on ne peut comprendre le sacerdoce qu'en fonction de l'Eucharistie, et que c'est l'Eucharistie qui nous aide à comprendre le sacerdoce. Ce qui est parfaitement vrai. Au fond, les deux sacrements que le Christ a institués immédiatement, ça alors je peux le dire, on peut le dire tout de suite, les deux sacrements que le Christ a institués immédiatement, c'est l'Eucharistie et le sacerdoce. Les autres, il a laissé le soin à l'Église de les découvrir. Et je trouve ça beaucoup plus beau. Et c'est ce que je crois qu'on doit dire théologiquement. Apologiquement, on a dit que le Christ les a tous institués. C'est vrai, il les a tous institués par l'intention, mais pas l'impérium. Et c'est l'Église qui a donné l'impérium. Vous voyez, distinguons bien les deux. Alors ça, c'est vraiment le Christ qui a dit « Faites ceci en mémoire de moi. Faites. » Ça, c'est l'impérium. « Faites ceci en mémoire de moi. » Donc c'est l'impérium du Christ à l'égard du sacerdoce. Et c'est l'impérium du Christ à l'égard de l'Eucharistie. Oui.
Quand Jésus dit « Baptisez-les au nom du Père et du Fils. »
Oui, c'est sûr. Baptisez-les en nom du Père. Il l'a dit, mais c'est après. Vous voyez ?
Ce qui est sûr, c'est que là, alors nous verrons ensuite le baptême. Nous verrons que le baptême, ensuite, il le dit. Mais ce que j'essaie de comprendre, c'est qu'en premier lieu, vous voyez, ce qui commande tous les sacrements, c'est ça qui m'intéresse ici. C'est l'ordre voulu par la sagesse de Dieu. Je ne peux pas dire baptisez-les, c'est premier. Avant ça, il y a l'Eucharistie. Et avant ça, il y a le sacerdoce. Et c'est ça qui est important, parce que baptisez-les, et puis le fait de la pénitence, vous voyez, c'est après la résurrection. Tandis qu'ici, c'est avant, c'est de son vivant. Et c'est les deux sacrements qui commandent tout. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. C'est l'ordre progressif de l'institution du Christ. Et comment le Christ a donné l'impérium, a donné le commandement de continuer son geste. Alors, essayons de comprendre. L'intention du Christ instituant l'Eucharistie. Mais pour comprendre la signification du geste du Christ et comprendre comment ce geste du Christ va être explicité progressivement dans l'Église, mais ce qui est terrible, c'est que nous sommes des hommes et nous retenons plus les conclusions que la source. C'est toujours ce qui arrive. Oui. Alors, nous continuons à garder les conclusions et on oublie la source. La source, c'est l'intention. Et de fait, c'est ce qui est arrivé en théologie. Dans la scolastique, c'est ça. La scolastique décadente, c'est de garder les conclusions. Et c'est d'oublier l'intention. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est remonter le renouveau de l'Église, le renouveau de la théologie, c'est d'accepter de retrouver la source. Et donc de retourner à l'intention profonde du Christ instituant l'Eucharistie. Pour redécouvrir la signification profonde de l'Eucharistie. Je crois que c'est ça qui nous est demandé. Vous voyez ? Et c'est sans doute ce que l'Esprit Saint nous demande. Non pas en le faisant en opposition avec la scolastique, ce serait très mauvais, parce que l'opposition à une conclusion conduit à une autre conclusion. Vous voyez ? Ceux qui sont en opposition vis-à-vis de la scolastique font une autre théologie scolastique, c'est-à-dire une théologie à base de la philosophie moderne. Alors à ce moment-là, c'est une scolastique opposée à l'autre scolastique. Alors qu'il faut tout simplement accepter qu'au bout de 2000 ans de pèlerinage,
Mais oui, il faut reprendre la source. Il faut retourner à la source. Les pneus sont fatigués, sont usés, il faut retourner à la source. Il faut revenir à la source. C'est normal, c'est pas du tout. Je ne condamne pas du tout le père Garry ou Lagrange d'être resté scolastique. C'était de son temps. Il devait l'être. Et nous ne pouvons pas continuer Garry ou Lagrange. Je prends Garry ou Lagrange parce que c'était le plus grand scolastique de son temps. Il était reconnu comme le plus grand scolastique de son temps. Lisez-le de temps en temps. Ça vous fera du bien. Pour mieux comprendre, hein, lisez le père Garry ou Lagrange sur l'Eucharistie. Lisez le père Garry ou Lagrange sur le mystère de la révélation et de la foi. Ça fait du bien de lire ça, parce que ça vous met tout de suite dans un climat particulier qui n'est pas le vôtre. Et vous êtes obligé de comprendre que nous reprenons les choses dans une autre perspective. Parce que moi, j'ai été la frontière entre les deux. Hein. J'ai connu Garry ou Lagrange, je l'ai beaucoup aimé, mais aimé beaucoup, nous sommes vraiment de grands amis. Garry ou Lagrange ne comprenait pas qu'il fallait tout reprendre. Ramirez a compris. Et qu'il fallait tout reprendre. Ramirez m'a dit, oui, je suis le dernier des scolastiques. Vous devez faire autre chose. Garry ou Lagrange n'aurait jamais dit ça. Et je crois que l'Église, avec Vatican II, le dit. Parce que Ramirez était après Vatican II. Il avait compris. Garry ou Lagrange était avant Vatican II. Il ne pouvait pas comprendre. Mais c'est pour que nous comprenions un peu le tournant de l'Église. Hein. Il faut comprendre ce tournant de l'Église. Vatican II est un très grand tournant dans l'Église. Très grand tournant. Il ne faut pas du tout diminuer l'importance de Vatican II. Mais il faut bien le comprendre. C'est un très grand tournant dans l'Église. C'est un retour à la source. Et c'est une exigence de retour à la source. Alors à ce point de vue-là, c'est très grand. Mais ce n'est pas commode. C'est sûr que ce n'est pas commode du tout. Alors, il faut retourner à la source, c'est-à-dire retrouver comment le geste du Christ fonde les sacrements. Le geste du Christ dans l'intention de, quand Jésus fait ce geste dans l'institution de l'Eucharistie, fait ce geste comme le dernier repas qu'il prend avec ses apôtres. Donc, un testament fraternel dans un repas. Ce n'est pas pour rien que c'est fait dans un repas. C'est fait en prolongement, en continuité et en même temps en rupture avec l'ancienne Pâque. Il y a les deux choses. Il y a la continuité et la rupture. La continuité, c'est que Jésus a d'abord pris la Pâque ancienne. La rupture, c'est le lavement des pieds. Et le lavement des pieds représente une rupture. Preuve, c'est que Pierre est scandalisé. Heureusement que Pierre a été scandalisé. Parce que comme ça, il nous montre la rupture. Parce que ce n'était pas du tout normal. Donc, il y a une rupture. On est toujours scandalisé devant les ruptures. Tous les gens traditionnalistes sont scandalisés par Vatican II. C'est normal. Ils sont Pierre. Les intégristes, c'est Pierre. Vous voyez ? C'est Pierre avant de recevoir du Christ la confirmation. C'est en restant dans leur attitude, en disant « Non, ça ne peut pas changer, ça ne peut pas changer, ça ne peut pas changer. » Pierre disait ça, enfin, la tradition, c'est la tradition. Le geste le plus extraordinaire, c'est que celui qui est le chef et le seigneur, qui préside la Pâque, alors c'était là où le chef religieux présidait la Pâque, il ne faut pas l'oublier, hein. C'était le chef de famille, c'était le chef religieux qui présidait la Pâque. Or, ce chef religieux, ce chef de famille qui préside la Pâque fait le lavement des pieds. C'est quand même la rupture la plus extraordinaire qui soit. Il fait le geste de l'esclave. Il fait le geste de l'esclave pour montrer qu'il y a quelque chose de tout à fait nouveau. Et ce quelque chose de tout à fait nouveau se fonde sur la pauvreté. Ça se fonde sur la pauvreté. Toute l'Église est fondée sur la pauvreté. Et plus nous approcherons du terme, plus le mystère de la pauvreté devra être vécu. À la différence de l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance ne se fonde pas sur la pauvreté. L'Ancienne Alliance se fonde sur l'obéissance. C'est quand même très différent. C'est l'obéissance. On ne demande pas du tout à Abraham d'être pauvre. Il emporte Sarah, Lot et tout son cheptel. Hein. Ce n'est pas un pauvre Abraham. Il n'a jamais été pauvre, Abraham. Jamais. Abraham a été. Mais il est obéissant. Et si vous regardez vraiment la théologie d'Abraham, vous voyez que ce qui est exigé d'Abraham, c'est l'obéissance. C'est très joli. Ça, c'est les pères jésuites. On ne demande jamais à un père jésuite d'être pauvre. Il ne faut jamais demander ça à un père jésuite. Jamais. On lui demande l'obéissance. Et s'il n'est plus obéissant, ça ne va plus. Tandis que les ordres mendiants, on leur a demandé la pauvreté. Et je suis persuadé que c'est ce qui caractérise la nouvelle alliance, c'est la pauvreté. Ce n'est pas l'obéissance. Alors la pauvreté est gardienne de l'obéissance, c'est sûr, mais ça va plus loin. La pauvreté va plus loin que l'obéissance. Parce que la pauvreté peut regarder quelque chose de radical. L'obéissance, c'est la vertu de l'obéissance. La pauvreté n'est pas une vertu. C'est un état. Et donc ça peut aller beaucoup plus loin. Et c'est un état. Ça caractérise les vertus théologales, la pauvreté. Tandis que l'obéissance est une conséquence des vertus théologales. Il faut donc retourner à la source pour trouver la pauvreté. Et la pauvreté, ça touche la source des vertus théologales. Il faut être pauvre pour croire. Il faut être pauvre pour espérer. Il faut être pauvre pour aimer. Et chaque fois que vous manquez de pauvreté, la foi en prend un coup, l'espérance en prend un coup, et la charité en prend un coup. Ça, que c'est la pauvreté qui est exigée profondément pour la nouvelle alliance. Et c'est curieux que Jésus ne fait pas un geste d'obéissance pour instituer l'Eucharistie, c'est un geste de pauvreté. Et de pauvreté absolument gratuite. Il fait le geste de l'esclave. Et ça scandalise Pierre. Vous voyez, si on avait donné un conseil à Jésus, on aurait dit oh non, ne faites pas ça, ça va scandaliser Pierre. C'est évident, on aurait dit ça. Ça va scandaliser Pierre. Il ne faut surtout pas faire ça. Et Jésus l'a fait. Et Jésus a fait ce geste de l'esclave auprès de ses apôtres. Et il y a eu scandale de Pierre. Et Jésus lui a demandé de dépasser ce scandale. Et Jésus lui a demandé, c'est très important de demander, parce qu'au fond, c'est peut-être l'attitude qu'on devrait avoir vis-à-vis des intégristes, vous voyez ? Parce que les intégristes sont scandalisés devant Vatican II. Les intégristes sont scandalisés devant les réformes liturgiques. Et les intégristes, c'est l'attitude de Pierre. Ils sont plus Pierre que Pierre. Ils ont un sens de l'autorité plus grand que Pierre. Alors il faut leur montrer comment Jésus dit à Pierre ces paroles très très fortes. Tu ne comprends pas maintenant, et si tu ne l'acceptes pas, tu n'auras pas part avec moi. Et c'est vrai. Il faut dire ça aux intégristes. Si tu n'acceptes pas, tu n'auras pas part avec moi. Donc ils se mettent en dehors. Mais il faut accepter. Il faut accepter de ne pas comprendre. Je trouve ça très très beau, vous voyez, parce que il y a quelque chose de grand chez les intégristes, comme il y a quelque chose de grand chez Pierre. Il y a quelque chose de noble chez les intégristes. C'est l'attitude de Pierre. C'est pas très intelligent. Pierre n'est pas très intelligent. C'est sûr. C'est pas l'intelligence qui domine chez Pierre. C'est pas ça du tout. Chez Jean, c'est très différent. Jean, il y a l'intuition. Vous savez bien ce que saint Thomas dit, pourquoi Jésus aime Jean plus que Pierre. C'est saint Thomas qui dit ça. À cause de sa perspicacité d'intelligence. Je trouve ça magnifique. C'est saint Thomas qui reconnaît que Jean a une perspicacité d'intelligence plus grande que Pierre. Et c'est pour ça que Jean est plus aimé du Christ. Et ce qui devrait être notre devise, c'est la perspicacité d'intelligence. Et saint Thomas ajoute, un maître aime toujours mieux des disciples intelligents que des disciples pas très intelligent. Alors il montre ça, que le Christ... Mais la perspicacité de l'intelligence, il ne dit pas le raisonnement, hein. C'est pas la logique, c'est la perspicacité de l'intelligence. C'est-à-dire l'intuition profonde dans l'ordre de l'amour. On saisit plus avant, On va plus loin. Je crois que c'est très important tout ça. Donc on voit que le geste du Christ, c'est un geste de pauvreté. Et c'est à travers ce geste de pauvreté de l'esclave où Jésus reprend tout. Où Jésus va, à partir de ce geste, pour comprendre les intentions du Christ, il faut regarder le lavement des pieds. Ça me semble absolument nécessaire. Autrement, on ne comprend pas l'intention du Christ. Ce lavement des pieds va nous faire entrer dans ce geste du législateur, de ce nouveau législateur, qui reprend tout, dans une nouvelle intention. Alors on pourrait dire, voyez, parce que c'est toujours la même chose, hein, j'essaie de comprendre le mystère de l'Eucharistie, d'une certaine manière, c'est quelque chose de nouveau qui va reprendre l'origine. L'alpha et l'oméga. C'est vrai, l'alpha et l'oméga. On pourrait dire que l'institution de l'Eucharistie reprend l'origine de la vocation des Juifs. L'origine de la vocation des Juifs, c'est Abraham. Le Christ, en instituant l'Eucharistie, reprend tout à l'origine. C'est sûr, parce qu'il n'est pas en opposition, c'est là la différence entre un raisonnement analogique et un raisonnement dialectique. Un raisonnement dialectique, ce serait que Jésus, en instituant l'Eucharistie, s'oppose à l'origine de la vocation d'Abraham, à l'origine de la vocation de Moïse, la première Pâque. Alors, pas du tout. Il dépasse la première Pâque, il reprend l'origine de la vocation d'Abraham pour aller plus loin. Donc on retrouve l'alpha et l'oméga pour retrouver quelque chose de plus important. Et donc pour retrouver à l'intérieur de la pauvreté l'exigence qui était demandée à Abraham, va vers la terre promise. La véritable terre promise pour nous, c'est l'Eucharistie. C'est vraiment la terre promise, c'est-à-dire le corps du Christ qui nous est donné. La terre promise, c'est le corps du Christ. Il ne faut pas l'oublier, c'est le cœur de Jésus. Et donc, c'est l'origine qui nous est donnée. C'est l'origine qui était promise à Abraham, qui nous est donnée à travers l'institution de l'Eucharistie. C'est Jésus qui nous promet de nous donner son corps et son cœur en nourriture. La réalisation plénière de la première promesse. Et la réalisation plénière de la première promesse dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Puisque c'est le cœur d'un Dieu, c'est le cœur de notre Dieu qui est donné dans l'Eucharistie. C'est le corps du Christ qui nous est donné dans l'Eucharistie. C'est bien ce que Jésus fait quand il prend le pain. Alors, voyez cette alliance extraordinaire, hein, quand on voit, et je crois que c'est très important de comprendre la reprise de la première promesse. La terre promise, c'est la terre où il y a en surabondance le point de vue, le lait et le miel, le blé, qui est le fruit de la terre de Cana, la terre de céréales, et puis Jésus lui-même. Jésus se cache derrière le pain. C'est cette invention merveilleuse de Dieu, de se cacher derrière le pain. C'est bien la terre promise, le lieu où nous est donné le pain en surabondance, le blé en surabondance, et où, à travers ce don nous est donné le corps du Christ. Le signe sensible qui est le pain, le signe sensible qui est le vin, et à travers ce signe sensible du pain et du vin, nous est donné le cœur de Jésus, nous est donné le sang du Christ. L'intention profonde de Jésus en instituant l'Eucharistie, il reprend tout ce qui a été dit à Abraham, tout ce qui a été dit à Moïse, tout ce qui a été dit à travers les prophètes.
Alors il faut reprendre toutes les intentions. Abraham, Moïse et les prophètes. Je crois qu'on peut dire ça. Que Jésus, en instituant l'Eucharistie, c'est le prophète par excellence. C'est prophétique, les sacrements. Il ne faut pas l'oublier. C'est une institution prophétique. Parce que c'est une institution qui attend le retour du Christ. Donc c'est une institution prophétique. Donc l'intention qui est présente dans tout, dans toutes les promesses, depuis Abraham jusqu'à Marie, est résumée, est reprise. Alors c'est les intentions, l'intention qui anime Abraham, que Dieu met dans le cœur d'Abraham, l'intention que Dieu met dans le cœur de Moïse, l'intention que Dieu met dans les prophètes, Jésus la reprend dans son cœur de fils bien-aimé du Père pour instituer l'Eucharistie. Donc institution sacerdotale, prophétique et royale. Tout ça est uni dans l'intention profonde de Jésus. Alors l'institution sacerdotale, nous la comprenons bien, c'est le sacrement du salut. Et ce sacrement du salut est lié à la croix. L'institution prophétique, c'est d'annoncer par le mystère de l'Eucharistie le mystère du salut. Et l'institution royale, c'est de nous donner le plus grand des trésors, le cœur de Jésus et le sang du Christ. Alors nous avons bien, dans l'intention du Christ instituant l'Eucharistie, ces trois dimensions. Jésus réalise le sacrement de l'Eucharistie en tant que grand prêtre, en tant que prêtre, prophète et roi. Et nous devons découvrir dans le geste du Christ ces trois intentions. Parce que autrement, nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas comment ce geste du Christ résume, puisque c'est son testament. C'est la dernière institution. Donc tout est résumé dans ce mystère. Vous voyez, c'est important parce que alors nous comprenons qu'il a l'autorité du Père en instituant l'Eucharistie. S'il a l'autorité du Père, ce sacrement implique nécessairement l'intervention de la toute-puissance du Père. C'est pour ça que c'est royal. Ça implique l'institution, ça implique l'autorité du Père. Jésus, en prenant le pain et en disant « Ceci est mon corps », Jésus nous montre que c'est royal, et donc il fait appel à l'autorité souveraine du Père. Il nous montre que c'est prophétique, parce que ce sacrement nous ouvre directement l'accès au paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. C'est l'aujourd'hui de Dieu, l'Eucharistie. Chaque fois que je communie, je peux dire que c'est l'aujourd'hui de Dieu. Aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. C'est tout à fait juste, ça. C'est pour nous. Et puis, le point de vue sacerdotal, nous sommes sauvés dans l'Eucharistie. C'est le sacrement du salut. C'est le sacrement de la rédemption. Et nous sommes sauvés dans le sang et le corps du Christ. Donc, il y a bien les trois aspects de l'intention du Christ qui sont dans le mystère même de l'Eucharistie et qui sont présents dans le sacrement de l'Eucharistie. Je crois que c'est très important, vous voyez, de reprendre les intentions du Christ comme grand prêtre. Nous ne pouvons jamais les savoir parfaitement. Je crois que quand on arrivera au ciel, on dira qu'on a uniquement gratté un tout petit peu et qu'on n'a pas compris. Ce que Jésus a dû mettre comme intention en instituant l'Eucharistie. La profondeur de l'intention du Christ. Alors ça, c'est capital. C'est capital puisque c'est là où reposent tous les sacrements. Tous les sacrements reposent sur cette institution du Christ et sur ce geste de Jésus. Ce geste implique un regard sur une matière, le pain et le vin, pour transformer cette matière dans son corps et son sang. Donc cette intention à ce réalisme et cette efficacité qui fait appel à la toute-puissance du Père.
pour faire qu'à travers le pain et le vin, découvrions d'une manière efficace l'intention du Christ. Vous voyez, l'intention pour nous, hein, selon notre langage philosophique, l'intention demande de se réaliser dans un choix et dans un imperium. Autrement, l'intention risque de tomber dans la velléité. Hein? Donc, cette intention, elle est divine. Elle implique un choix et un imperium. Et cette intention du Christ, le choix, c'est le pain et le vin. Et l'imperium, c'est la parole du Christ. Ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Alors vous avez bien le point de vue de l'intention, le point de vue du choix et le point de vue de l'impérium. Si je veux aller jusqu'au bout de l'intention, je ne peux pas l'analyser autrement, parce que je ne peux pas l'analyser autrement que par un geste humain. Un geste humain peut être uniquement affectif. Un geste humain peut rester uniquement dans l'ordre de l'affectivité, sans passer dans l'efficience. Pour passer dans l'efficience, il implique un choix, il implique un impérium. Eh bien, l'intention du Christ instituant l'Eucharistie implique une intention, un choix et un impérium. Et l'impérium, c'est « ceci est mon corps, ceci est mon sang, ceci est le calice de l'Alliance nouvelle en mon sang. » Avec ceci, nous pouvons facilement le comprendre. Et en ce sens-là, vous voyez, Jésus met un terme à tout ce qui a été réattendu dans l'Ancien Testament. Tout ce qui a été attendu dans l'Ancien Testament par les prophètes se trouve résumé dans son testament, dans ce geste qu'il fait. C'est ça la chose si importante de la scène. Et vous voyez, les protestants ont très bien compris ça. Il faut bien le dire. Quand ils ont compris la scène comme étant comme un sommet, alors ils ont coupé la scène de la croix, ce qui est une erreur, et ils ont compris la scène uniquement par mode de cause exemplaire, à cause du manque de réalisme. Alors ils ont pris uniquement la cause exemplaire. Mais ils ont très bien compris combien la scène était quelque chose d'unique. Et c'est vrai, la scène est quelque chose d'unique, parce que c'est le testament du Christ. Et peut-être que nous, catholiques, n'avons pas toujours assez compris que la scène est quelque chose d'unique, cause exemplaire, mais cause divine. Cause exemplaire divine, donc cause exemplaire en impliquant un réalisme divin. Faites ceci en mémoire de moi. Ça, c'est le réalisme divin. Et faites ceci en mémoire de moi, conclut l'intention du Christ. L'intention du Christ ne s'arrête pas à la consécration, l'intention du Christ s'arrête au sacerdoce. Faites ceci en mémoire de moi. Jésus ne s'arrête pas après avoir dit « ceci est mon corps, ceci est le calice de mon sang », ça s'achève dans « faites ceci en mémoire de moi ». Donc l'impérium du Christ, « faites ceci en mémoire de moi », c'est donc le mystère du sacerdoce. Autrement dit, l'Eucharistie et le sacerdoce, dans la sagesse du Christ, ne font qu'un. Et ça, je crois que nous devons le dire. Ça ne fait qu'un. Si vous supprimez le sacerdoce, vous supprimez l'Eucharistie. Si vous supprimez l'Eucharistie, vous supprimez le sacerdoce. Et historiquement, c'est bien ce qui est arrivé dans l'Église. Si vous ne voyez plus le réalisme de l'Eucharistie, dans son réalisme divin, vous supprimez le sacerdoce. Si vous supprimez le sacerdoce, vous supprimez l'Eucharistie. Parce qu'il y a le même impérium, donc il y a la même intention du Christ dans son ultime décision. Bon. Voyez là le passage du geste au sacrement. Et c'est bien l'Eucharistie qui nous fait comprendre. Alors maintenant, nous allons regarder, si vous voulez, comment l'Église a compris cela. Parce que c'est les sacrements du Christ et les sacrements de l'Église. Autrement dit, le sacrement, c'est Jésus qui le fait, qui l'institue, et c'est l'Église qui le revit, qui le vit. Alors, comprenons bien toute la différence qui existe entre le geste et la parole. Je vous l'ai déjà dit, mais je le reprends maintenant. Quand il s'agit de la parole, l'Église doit garder la parole et l'interpréter. C'est tout le rôle de la théologie. Toute la théologie est une herméneutique de la parole de Dieu. C'est vrai. Toute la théologie est une herméneutique de la parole de Dieu. C'est parce qu'on ne l'a pas assez affirmé qu'on est obligé de réinventer une herméneutique. Mais au fond, toute la théologie est une herméneutique de la parole de Dieu. Alors, la différence de la nouvelle herméneutique, c'est que l'herméneutique, à la place d'être au niveau de la théologie, est au niveau de la parole de Dieu. Autrement, toute la théologie est une herméneutique de la parole de Dieu, une interprétation de la parole de Dieu. Et le propre de la théologie, c'est d'interpréter la parole de Dieu. Le propre des gestes, ce que les gestes réclament de l'Église, c'est pas seulement une herméneutique, c'est plus, c'est un complément. Alors c'est ça qu'il faut essayer de saisir, hein. Parce que je crois que c'est très important pour comprendre la théologie des sacrements. Je comprends. Comment ? Parce qu'il s'agit de la parole, il s'agit uniquement d'une interprétation. Parce qu'il s'agit du geste, il s'agit d'un complément. C'est ça qu'il faut saisir. L'herméneutique n'est pas un complément. L'herméneutique, c'est une explication, une explicitation pour qu'on saisisse le sens, la signification. C'est au niveau de la signification. L'herméneutique, c'est saisir de la manière la plus exacte qui soit la signification de la parole de Dieu. Tandis que quand il s'agit des gestes, il y a un complément. Le complément n'est pas une herméneutique. C'est quelque chose qui s'ajoute. On ne dit pas que la femme est l'herméneutique de l'homme. On va mettre ça comme explication, vous verrez tout de suite. Elle est le complément. C'est très curieux, hein ? Mais ça, bibliquement, c'est intéressant à voir. La femme est le complément de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'elle achève. C'est l'achèvement. L'herméneutique n'est jamais un achèvement. Si l'herméneutique était un achèvement, vous comprenez que je resterais fixé aux conclusions théologiques en disant c'est l'achèvement de la parole de Dieu. Or, toutes les conclusions de la parole, toutes les conclusions théologiques demandent de revenir à la parole de Dieu. Parce que la théologie n'est qu'une herméneutique de la parole de Dieu. Tandis que lorsqu'il s'agit des gestes, on peut dire que l'Église apporte son complément. Quelque chose qui s'ajoute, quelque chose qui permet une extension, quelque chose qui permet d'aller plus loin. C'est très mystérieux. L'herméneutique n'est pas une complémentarité. L'herméneutique n'est pas une coopération. C'est d'être serviteur. C'est pour ça qu'on dit que la philosophie est servante de la théologie, servante de la foi. Tandis qu'au contraire, la complémentarité implique une coopération. Alors je crois, quand il s'agit des sacrements, l'Église apporte quelque chose de nouveau. Quelque chose qui vient s'ajouter. En respectant le noyau fondamental qui vient du Christ. Mais elle fait plus qu'une herméneutique. Et je crois que toutes les confusions viennent de là aujourd'hui, vous voyez. Ça me semble très important de comprendre ça. Toutes les confusions viennent de là. Vous voyez, beaucoup aujourd'hui, ceux qui ont suivi un tout petit peu les discussions théologiques depuis Vatican II, veulent revenir à la scène. Et c'est pour ça qu'on a eu ces aberrations terribles de dire après un repas, j'ai entendu ces choses-là, je n'ai pas assisté heureusement, mais j'ai entendu ces choses-là après un repas, et c'était dans des milieux très, très, très spirituels, puisque c'était dans des milieux de famille qui font partie, vous voyez, de groupements très, très, très donnés à la très sainte Vierge. Le prêtre, l'aumônier, après le repas, dit maintenant nous allons célébrer. Tout le monde était autour, puis on célébrait. Pour revenir intégralement à la scène. Donc, au fond, on refusait la complémentarité de l'Église et on revenait à l'herméneutique. On voulait revenir à une pureté du geste du Christ. On faisait une grosse confusion, parce que le repas premier, ce n'était pas la Pâque. Ce n'était pas un repas religieux, c'était un repas familial, tout simplement. Un repas amical. C'était dans le foyer de Notre-Dame. C'est à Versailles qu'on a dit ça. Et on a demandé si on devait refuser ou pas. On a déposé le problème. C'était les foyers de Notre-Dame, c'est bien fondé par l'abbé Caffarel, qui était souvent très beau, il y a des choses très belles, mais des confusions et des aumôniers qui voulaient faire ça, tout simplement pour être fidèles à la source. Alors je crois que la confusion vient entre l'herméneutique et la complémentarité. Je vais essayer de comprendre, vous voyez. Alors l'herméneutique, si c'était l'herméneutique, je me disais, d'accord, il faut revenir à la parole de Dieu. Il faut tout le temps revenir à la parole de Dieu. La complémentarité, ah non. Voyons ce que l'Église veut. Et l'Église a fait réaliser l'Eucharistie autrement qu'à la scène. C'est autre chose. Il faut accepter la complémentarité. Autrement, vous refusez le rôle de l'épouse.